Session de philosophie par le père Philippe à Saint-Jodard le 12 juillet 1990.
Pour que tous ceux qui ont demandé de pouvoir me voir, je suis à leur disposition après le cours du matin. L'âme informe le corps et l'âme est source aussi le plus des uns des autres. Nous allons voir ça maintenant. Oui et non. Vous êtes normand. Vous voyez ici, le voie nue, ce qui dépasse le corps. C'était le troisième point qu'on va voir maintenant, ce qui dépasse le corps. Tu vois, ce qui semble dépasser le corps, ce qui apparaît dépasser le corps, transcender le corps. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir. Nous commençons l'étude du vivant par l'expérience du se movere, se mouvoir dans l'immanence. Quel est le propre de la vie? Le mouvement ou l'immanence? C'est l'immanence en mouvement. C'est pas l'opposition. C'est une immanence dans le se movere. C'est pour ça que c'est se movere. Le se exprime l'immanence dans le movere. Et je peux pas séparer les deux, puisque c'est le propre de la vie. L'expérience typique du vivant, c'est ça. C'est qu'il y a un devenir dans l'immanence. L'immanence, c'est l'être présent dans le devenir. Vous vous souvenez, cette première définition de la substance chez Platon, la déesse qui demeure dans la maison. C'est très très joli, c'est un peu mythique, mais c'est très joli, c'est poétique, c'est symbolique. Il y a quelque chose en moi qui demeure. Je me suis réveillé ce matin. Est-ce que je suis la même personne qu'hier au soir ? Posez pas trop la question, hein. Mais je peux me la poser comme ça, puisque il y a quelque chose qui demeure. Mais normalement, vous ne vous posez pas beaucoup, mais quelquefois il peut y avoir une petite angoisse. Est-ce que je suis la même personne qui reçoit? J'ai tout oublié dans la nuit, mais tant mieux. La nuit est faite pour ça, pour tout oublier et pour tout reprendre. Est-ce que c'est la même personne qui a 10 ans? C'est déjà un peu plus loin. Je dis oui. Vous voyez, je dépasse le passé, le présent, le futur, la durée. C'est la durée de Bergson. C'est comme ça que Bergson, c'est si là, c'est la durée. La personne, c'est ce qui me permet de durer. C'est comme ça qu'il saisit l'âme, c'est l'âme qui fait ce fait. Donc il y a quelque chose de substantiel dans la durée. Le « c'est » m'enverrait. S'il n'y avait pas le « c'est », il n'y aurait pas la durée. Il n'y aurait que la juxtaposition. Dans un mouvement purement physique. Donc nous commençons l'étude du vivant par l'expérience du « c'est m'enverrait ». Quel est le propre de la vie, le mouvement ou l'immanence, le lien des deux? N'est-ce pas, dans une vision de sagesse, après avoir découvert Dieu comme le vivant, que nous pouvons vraiment saisir l'immanence? Je la saisis avant. Il y a un regard nouveau, voilà ce que je dirais. Un regard nouveau, ultime. Mais faisons attention, ne mettons pas tout dans le jugement de sagesse, hein. Le jugement de sagesse apporte quelque chose. Autrement, on tomberait dans l'ontologisme. L'ontologisme, c'est de tout mettre dans le jugement de sagesse. Il y a une tentation. Je saisis l'immanence du vivant, la durée du vivant avant le jugement de sagesse. Je saisis l'immanence de ma vie avant le jugement de sagesse. Le jugement de sagesse, dans la lumière de Dieu, me fera comprendre que je participe la vie. Et donc, que j'ai une vie imparfaite. Et cependant, j'ai dans ma vie intellectuelle et affective un appel constant à ce qu'il y a d'ultime. Dans le jugement de sagesse, je vivrai que ma vie ne peut être parfaite que si elle atteint Dieu. Ça, c'est énorme de saisir ça. C'est saisir l'immanence, je dirais d'une manière ultime, mais pas vraiment. Je saisis déjà vraiment dans mon expérience de mes opérations vitales, en la purifiant de tout venir. Oui, mais attention, je ne saisis jamais l'immanence dans un au-delà du devenir, même dans un jugement de sagesse. Autrement, je séparerais mon conditionnement de vivant participé du vivant tout court. Vous voyez, ça a été la grande tentation de Hegel, ça. Il ne faut pas tomber dans cette tentation. Le chemin de sagesse ne me fait pas tomber dans la tentation de la pureté du vivant, de la nostalgie de la pureté. Non, je vois au contraire ce qu'il y a d'extraordinaire dans le vivant, c'est que je peux être un être en devenir et un être qui atteint quelque chose d'ultime. Je distingue, mais je ne sépare pas. C'est ça que le fait donne le jugement de sagesse. Je distingue, mais je ne sépare pas. Je distingue le conditionnement de la finalité, mais je ne la sépare pas. Parce que c'est par le conditionnement que j'atteins le terme ultime. Et donc je resterai toujours dans le devenir et l'immanence, jusque dans le jugement de sagesse. N'est-ce pas l'immanence plus ou moins profonde d'un vivant qui rejaillit le plus sur le corps, C'est sûr que plus le vivant est vivant, plus il est immanent. Et par le fait même, plus il est au-delà du corps. Mais il ne se sépare pas du corps. C'est ce que nous allons voir maintenant. Non pas dans un chemin de sagesse. Je ne sais pas si on aura le temps de voir le chemin de sagesse. J'en dirai quand même un petit mot à la fin. Pour que vous puissiez mieux comprendre ce que c'est que ce chemin de sagesse. Donc, nous sommes maintenant dans les diverses expériences vitales que nous avons. Nous allons dépasser l'imaginaire et entrer dans la pensée. Cogito. J'espère que depuis le début de cette session, vous avez pensé. Vous avez cogité. Vous savez ce que c'est que penser. Autrement, vous ne seriez pas ici. Et le propre de la philosophie, c'est d'essayer de mettre en pleine lumière ce caractère spécifique de ce grand vivant qui est l'homme. Ce grand vivant qui est l'homme pense, le roseau pensant de Pascal. Je ne suis pas un chêne vide qui pense de temps en temps, jugement de sagesse. Mais autrement, je suis un roseau pensant. Le roseau, la fragilité, le vent souffle, le roseau plie, mais ne casse pas. Il y a Pascal et La Fontaine, n'est-ce pas, qui se rejoignent là-dessus, c'est intéressant. Je suis un roseau pensant. Je connais toute ma fragilité, toute ma précarité. Elle est enracinée dans mon corps. Le devenir est toujours présent à cause de mon corps. Je suis un être appelé à vieillir. Et je vieillis tous les jours un peu plus. Alors ça peut me faire peur. Au contraire, c'est ma joie. Si je vieillis bien, si je vieillis mal, c'est gênant. Si je vieillis bien, c'est merveilleux. Parce que plus je vieillis, plus l'âme informe mon corps. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que si je vieillis bien, mon âme spirituelle devient de plus en plus spirituelle. cela qu'on constate dans la mort d'un vieillard. Ordinairement, la mort d'un vieillard a toujours cet aspect particulier que l'âme étant tellement liée au corps, sauf si c'est une mort violente, qu'on a l'impression que l'âme est enracinée dans le corps et que le lien est de plus en plus fort. Passionnel et captatif. On prend pour soi. il a sa parfaite indépendance. Et s'il est attentif aux autres, c'est pour les aider, c'est pour les porter. Mais il sait qu'il a toujours besoin des autres. Et donc, il ne sera pas celui qui dominera. Il a celui qui respecte l'autre. Il en a besoin. L'autre l'enrichit. Toujours. Vous voyez, dans la règle de Saint-Benoît, l'abbé doit être attentif aux novices pour savoir ce que les novices pensent de la communauté. C'est merveilleux. Ça, c'est très grec. Et c'est très grand. Dans une famille, on a toujours besoin des tout-petits, des plus jeunes, des benjamins. Il y a les aînés et les benjamins. Et on veut que les benjamins restent benjamins. Qu'il y ait la fraîcheur du benjamin qui pousse. Vous voyez, c'est cette constatation qu'il faut essayer de saisir. Qu'est-ce que ça représente, ma vie intellectuelle, ma vie spirituelle, dans l'intelligence et dans l'amour? C'est là où je suis un grand vivant. Tant que je n'atteins pas ça, je suis un petit vivant. Un petit vivant qui n'a pas d'autonomie. Qui manque d'autonomie parce qu'il n'a pas découvert sa vraie finalité. Alors il s'accroche et on devient un grand vivant dans la mesure où on découvre notre propre finalité. Et notre finalité, c'est la recherche de la vérité, une recherche loyale de la vérité qui me donne mon autonomie. Que toute recherche de vérité donne l'autonomie. Et donne une exigence constante de dépassement. La recherche de la finalité, c'est l'amitié. Et la recherche de la finalité, d'une manière ultime, ce sera cette découverte du Dieu créateur, Père. Ce sera cette découverte de la paternité, d'une manière contemplative. Vous voyez les trois finalités. Sont présentes dans ma vie spirituelle. Alors cette vie spirituelle que je constate, que je peux constater dès que... Évidemment, si on n'a aucune vie spirituelle, je ne la constate pas. Hein. Demandez à un alcoolique ce que c'est que sa recherche de la vérité. Demandez à quelqu'un qui est uniquement dans la vie passionnelle, qu'est-ce que c'est que sa recherche de la vérité ? Ça ne rend plus. La passion peut tout étouffer. Alors, il y a une recherche de vérité qui doit être ce qui commande tout. Cette parole si forte d'Aristote, Platon et la vérité, je les aime tous les deux, mais la vérité plus encore. Pouvoir dire ça en toute vérité, c'est très grand. C'est là où je découvre mon autonomie. La vérité vous libère. Elle donne cette autonomie de la vie d'intelligence. Alors, cette autonomie de l'intelligence est-elle encore liée au corps? Puis-je me séparer du corps pour être libre? Est-ce que l'esclavage suprême, c'était lié au corps? L'esclavage suprême, c'était dit au corps. Toute l'aspiration Il a oublié que le corps faisait partie essentielle de ma vie et de ma vie spirituelle aussi. Mépriser le corps est antinaturel. Il faut aimer son corps pour l'intégrer pleinement. Oh non, pas être passionné pour son corps et n'aimer que son corps. Non, non, pas du tout. L'aimer comme, de fait, le compagnon fidèle. Celui qui est toujours présent. Il y a un amour du corps qui est normal, vous voyez. Et si je suis chrétien, je sais qu'il y a une charité à l'égard du corps. Tout le respect. Quand on aime, on respecte. Le manque de respect vis-à-vis du corps est toujours un manque d'amour. Alors on a idéalisé, on est un peu platonicien. Alors comprenons, quelle est cette présence du corps dans ma recherche de la vérité? Quelle est cette présence du corps dans ce témoignage de la vérité? Quelle est cette présence du corps dans l'amour d'amitié spirituelle? Quelle est cette présence du corps dans la contemplation? Voilà trois questions que je me pose. Puisque ce sont les trois points de mon autonomie, la plus grande qui soit. Alors est-ce que mon autonomie demande la séparation du corps? Ou est-ce que mon autonomie demande d'assumer le corps, de m'en servir, et de m'en servir comme on se sert d'un ami, pas de s'en servir comme on se sert d'un esclave, pas de s'en servir comme on se sert d'un instrument inanimé. Le corps fait partie essentielle de ma vie humaine. Alors, dans ma vie purement de recherche de la vérité, et si je reprends la recherche de la vérité au plan philosophique, parce que je pourrais me demander au plan mathématique, alors là je demanderais à un mathématicien de dire quelle est la présence du corps pour le mathématicien. Ce sera intéressant du reste. Je me souviens de la réflexion de la fille de Merleau-Ponty quand elle avait 16 ans. Je crois que sa fille aînée. On m'avait dit, c'était du reste assez curieux, c'était des prémices d'un jeune père que je connaissais. Et après la cérémonie religieuse, il y avait évidemment le petit banquet. Et dans le creux de l'oreille, on m'a dit, la fille de Merleau-Ponty est là. Merleau-Ponty était encore vivant. Alors je dis, ça m'intéresserait beaucoup de la voir, parce que quand on voit la fille, on connaît le père. Ah, je dis, j'aimerais beaucoup alors me la chercher. Et je lui ai parlé de son père. Elle m'a dit cette phrase qui m'est restée. Ah, c'est pas drôle d'avoir un père philosophe. J'ai dit, pourquoi? C'est pas drôle d'avoir un père philosophe. Pourquoi? Parce que il n'est jamais avec nous. Il réfléchit tout le temps. Il médite tout le temps. Et tout le temps dans ses idées. Merleau-Ponty qui n'avait pas encore découvert l'être sauvage de sa fille. Un idéaliste, si je suis devant une philosophie qui regarde le vécu, une philosophie qui a comme méthode une méthode phénoménologique, alors je comprends. Le sage se sépare des autres. l'idéaliste se sépare de plus en plus du corps. La parole de Brunswick, messieurs et mesdames, laissez à la porte le sens commun, vos expériences, nous allons philosopher. Donc la fille qui n'a que 16 ans, incapable de philosopher, on la laisse à la porte. Si je suis en présence d'une sagesse philosophique réaliste, je sais que mon expérience est toujours présente. Le jugement d'existence. Ceci est l'autre. Dans toute ma vie intellectuelle et dans toute la recherche de la vérité, l'expérience est toujours présente. En acte. Je la dépasse, mais je ne l'aime pas, et je ne la méprise pas, parce que toute expérience a quelque chose à me dire. Le petit caillou a quelque chose à me dire. L'eau, le vent, et surtout, la présence d'un être humain. L'ami, il a toujours quelque chose à me dire. Donc, il y a un cordon ombilical qu'on n'a pas le droit de couper, qui reste tout le temps, qui est ce lien de l'intelligence, même si elle s'élève très haut, jusqu'à la découverte de l'être premier, même si elle contemple, elle reste toujours liée dans son exercice avec l'expérience. Donc avec les sens, donc avec l'imagination, ma vie intellectuelle reste toujours liée dans son exercice avec l'imagination, avec une image. Ce qui explique, voyez, comment je puis, par une certaine opération chirurgicale, empêcher quelqu'un de penser. Parce que ça, c'est la grande question qu'on pose tout le temps. Quand je suis arrivé à Fribourg, en 45, il y avait à ce moment-là un chirurgien. Je ne dis pas le nom. Qui opérait constamment à l'hôpital cantonal. Canton de Fribourg, canton qui respecte le point de vue catholique, surtout à cette époque-là, maintenant moins. Et ce chirurgien opérait de telle manière, on m'a expliqué son opération, je ne l'explique pas maintenant, c'est pas la bonne peine, une opération très rapide qui faisait que les vieillards insupportables, très difficile à supporter dans la maison et dans le foyer, on les amenait. Ils faisaient une petite opération, ils revenaient comme des enfants de 4 ans. N'ayant plus la conscience d'eux-mêmes, mais alors tout comme des agneaux, de vieux agneaux, qui donnaient de temps en temps des coups de tête, mais quand même, de vieux agneaux, bon pour la boucherie. Alors on a détecté ça, et leur on lui a dit non, votre place n'est pas ici. Ils donnaient le droit, vous voyez, d'enlever le lien, ils coupaient le cordon ombilical. Par le cerveau, une petite opération. Toute pensée est liée au cerveau, dans son exercice. Alors, le raisonnement très simple, si toutes mes pensées sont liées au cerveau, donc au corps, vous voyez bien qu'il n'y a aucune spiritualité dans la connaissance. Mon intelligence est toujours liée au corps, et donc elle implique un organe la vision comme mon toucher. C'est une objection classique et une objection très forte. Il ne faut pas le nier au point de vue positiviste. Du positivisme, c'est très fort, c'est une constatation. Je peux arrêter l'exercice de l'intelligence chez le plus grand sage s'il est entre mes mains. Il y a une image merveilleuse dans l'écriture. J'ai le droit de m'en servir au point de vue philosophique à propos de Samson. Dalia, l'épouse, veut saisir l'énigme, le secret. Quelle est la force de Samson? Elle est dans ses cheveux. Alors on lui coupe. Si Samson était devenu un novice, on l'aurait tondu, n'est-ce pas? Et alors à ce moment-là, il a perdu toute sa force. Mais c'est pour ça qu'on tond les novices.
Se place toujours du côté de l'exercice.
certain climat. Et c'est pour ça qu'on recommande à toute famille d'avoir un lieu de prière. Parce qu'on n'a plus de lieu de prière. On n'a plus de lieu de contemplation. On n'a plus de lieu de méditation. C'est très vrai que je suis conditionné par tout mon corps et par toute mon imagination. Mais mon intelligence dans sa vie propre dépasse ce conditionnement pour saisir la réalité dans ce qu'elle est, dans sa profondeur, dans son être. Mon intelligence est faite pour saisir quelque chose qui est au-delà du sensible. Elle saisit, elle appréhende une réalité, n'importe quelle réalité, même les réalités sensibles, d'une manière universelle. Vous voyez, je passe de blanc à blancheur. Prenez tout simplement ce que c'est que la blancheur. Vous n'avez jamais vu la blancheur, moi non plus. Ce serait très beau de voir la blancheur. Je ne la vois que dans les affiches. Persil. La blancheur, c'est ce par quoi le blanc est blanc. Hein? Ce par quoi le blanc est blanc. Ce par quoi le blanc est blanc. Je ne saisis pas sensiblement. Et ça a une signification pour moi. L'homme, l'humanité. Ce par quoi l'homme est homme. Mais c'est très curieux. Dans le langage courant, vous savez ça. Le langage courant est marqué du côté spirituel de mon intelligence. Supprimer tout ce qui est spirituel dans le langage, il n'y aura plus rien. Le langage est le signe. Est le signe que mon intelligence dépasse le sensible et l'imaginaire. Il n'y aurait pas de langage si l'intelligence était rivée dans sa signification à l'image et au sensible. Le langage est là comme un signe, un témoin que l'intelligence dépasse la représentation sensible et que mon intelligence est faite pour signifier quelque chose. Mais si mon intelligence était rivée au sensible, on n'aurait pas pu faire un cours de philosophie. Non, impossible. L'enseignement, même un enseignement bâtard d'un positiviste, l'enseignement montre que l'intelligence est capable de dépasser le sensible. Puisque je parle, et mon langage implique une signification. Mes mots ont une signification. Une signification quelquefois qu'il faut préciser, puisque le philosophe a son langage. Vous savez bien. La femme de chambre a son langage. La cuisinière et le cuisinier ont son langage. On le sait bien. Le clochard, son langage. Et de tout homme, son langage. Et dans le langage, il y a la marque que le clochard est un être humain. Très curieux. Qu'un petit enfant, emmené par une louve, vous savez ce fameux livre, l'enfant emmené par une louve, redécouvert au bout de 7 ans, il aboie, il mord, il ne parle pas, il marche à 4 pattes. C'est extraordinaire ça. Alors évidemment, l'interprétation de ça peut se faire différemment. Mais si je regarde ça attentivement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'intelligence doit s'éveiller par la parole, par un enseignement. J'acquiers l'autonomie. Je ne peux pas être autodidacte parfaitement. Je retournerai à mon milieu inférieur. J'éveille l'intelligence, et quand l'intelligence est éveillée et qu'elle commence à parler, un enfant commence à parler parce que sa mère lui parle. Un enfant sourit parce que sa mère sourit. Et le premier éveil de l'intelligence, c'est le sourire. C'est la présence. L'enfant est présent quand il sourit. Et même avant, quand il regarde. Et le sourire est un signe d'une présence. Alors vous voyez, la présence, c'est de la connaissance affective. Elle a une signification. Un perroquet extrêmement savant, comme perroquet, qui peut apprendre diverses langues, mais ne le sait pas. Toute la différence. Il répète. Est-ce que la répétition est une signification ? Non, c'est une mime. Pas de signification. Perroquet qui rit, ça arrive, et qui rit bruyamment, parce qu'il sait que ça fait rire davantage. Un perroquet qui rit, son rire n'a aucune signification, c'est pour ça que ça fait rire. Tandis que le sourire de l'enfant a une signification, la présence. Le perroquet qui rit, c'est une distraction. Il vous distrait. Parce que vous parlez sérieusement, et puis tout le temps, un perroquet, il y a un perroquet là, oh, il se mettra à éclater de rire, en pleine contemplation philosophique. Ce serait la distraction. La distraction n'est pas une signification, c'est du bruit. C'est tout ce qui attire le sensible. La signification, elle vous oriente dans la recherche de la vérité. Vous voyez, il y a là quelque chose de très important. Le sourire de l'enfant est la première émergence de l'intelligence au-delà de l'imaginaire. Visible. Il y a peut-être une émergence avant. Puisque la présence de l'enfant pour sa mère, c'est très vite. C'est très vite, avant le sourire. Mais c'est pour la mère. C'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour la mère. Alors l'intelligence est enfouie dans l'affectivité. Mais l'intelligence est présente. Quand une mère tient son petit enfant, elle ne tient pas une poupée. C'est tout à fait autre chose. Elle joue avec. Mais un jeu qui n'est pas un jeu comme un jeu de poupée, c'est un jeu sérieux. Un jeu très sérieux, mais elle joue pour éveiller l'enfant. Et il y a une présence. La présence implique une signification. Une présence affective, amicale, qui prend un mode symbolique, parce que la mère sait très bien ce qui permettra d'attirer l'attention. Quel est le symbole? La réalité. Vous voyez, comme un enfant crie, c'est l'heure du biberon. Il a faim. Et le biberon n'est pas chauffé. On a oublié. Qu'est-ce que fait la mère? Elle attire l'attention au-delà du biberon. Il y a un petit transfert. Par la signification. C'est l'éveil de l'intelligence. Parce que avoir le biberon, c'est l'appétit. C'est tout à fait d'ordre végétatif. On éveille. La signification montre l'éveil de l'intelligence au-delà du sensible. Mais on maintient le lien avec le sensible. Parce que je ne peux pas penser au-delà de cette émergence du sensible. Jusque dans la pensée la plus élevée, la purifiée, la plus contemplative. Il y a un lien avec le corps. Oui, ce n'est pas rien, le lien substantiel de l'âme spirituelle avec le corps. Puisque ce qui est plus spirituel en moi reste lié dans son exercice avec l'image, avec le corps psychique, avec le corps vivant d'une vie sensible, imaginative. L'intelligence toujours émerge de ce monde sensible. Elle est liée à ce monde sensible. Voyez, si j'étais purement idéaliste, je ne pourrais pas expliquer comment, par une opération chirurgicale, je peux faire retomber un homme à l'attitude d'un enfant, au gagatisme d'un tout petit. Je ne pourrais pas faire comprendre comment, par certains piqûres, le sérum de vérité, j'arrive à découvrir des tas de choses. Je ne pourrais pas expliquer comment le conditionnement est si puissant chez des quantités d'êtres humains qui n'arrivent pas à émerger au-delà de ce conditionnement. Tandis que si j'ai cette philosophie réaliste de l'âme et du corps, je vois que les opérations les plus spirituelles de l'âme restent liées au corps. Ce qui montre bien que mon âme spirituelle n'est pas séparée de l'âme qui informe le corps. Il y a un lien qui demeure. Le comment de ce lien est très difficile à expliquer. Je le constate, je le respecte. Et je me dis, c'est pas étonnant. Parce qu'il y a une unité profonde de mon âme et de mon corps, unité substantielle. Le dépassement de l'âme spirituelle par rapport au corps n'est donc jamais une séparation. Sauf dans les rêves, où j'imagine que mon âme peut se séparer de mon corps et se promener comme ça. Alors j'ai une âme volante. Je peux imaginer ça, cette imagination. C'est la soif de la fuite. Tandis qu'au contraire, la réalité, c'est que ma pensée la plus spirituelle reste liée à l'imaginaire. Toujours à une petite icône, très spirituelle, mais une icône, une image. Je crois ça très très important. Ceci, dans l'ordre de l'intelligence, dans l'ordre affectif, c'est encore beaucoup plus fort. Vous savez, l'exemple que prend Brémond dans l'histoire de la spiritualité, un exemple que je cite souvent parce qu'il est tellement merveilleux. Le curé d'un petit village demande à ses paroissiens et ses paroissiennes de lui payer une cloche parce que elles sont fêlées. Alors l'Angélus est fêlé, mais ça ne va pas. Il doit être claironnant. Alors une personne très pieuse qui a réservé de l'argent pour sa vieillesse et qui comprend qu'il y a un appel merveilleux dit: Monsieur le curé, je vous paierai les cloches. Combien ça coûte ? On lui dit. Monsieur le curé, surtout ne dites à personne que c'est moi qui vous les ai offerts. Madame, vous êtes sûre, je serai très discret. Mais monsieur le curé, je vous en supplie, inscrivez mon nom à l'intérieur de la cloche pour que chaque fois que le tympan tombe sur la cloche, il tapera sur mon nom. Voyez, l'amour pur. qui veut se dégager complètement du point de vue sensible, il retombe dedans. Qui fait l'ange fait la bête. Et ça, c'est très fort. Parce que je ne peux pas aimer spirituellement sans aimer passionnellement, sans aimer avec tout ce que je suis dans ma sensibilité. Un amour pur n'existe pas. Pur, c'est-à-dire séparé du sensible, n'existe pas. L'amour est toujours lié au sensible. L'amour le plus spirituel est toujours lié au sensible. Parce que j'aime avec tout ce que je suis. J'aime avec toute ma personne humaine. Alors là, voyez là, le cordon ombilical est beaucoup plus fort. Parce que c'est pas seulement l'exercice. Pas seulement l'exercice. Et cependant, l'amour spirituel existe. L'amour spirituel, c'est un amour, justement, qui est lié à la volonté. Je veux aimer et j'aime. Je ne peux pas dire ça au niveau passionnel. Je ne peux pas dire ça au niveau instinctif. L'amour spirituel a donc sa spécification propre. Mais il est tellement lié à la personne qui aime, qu'il est lié à tout l'aspect sensible, qui en est comme le milieu qui l'accompagne. Alors c'est plus qu'un conditionnement, c'est une présence. L'amour sensible est toujours présent à l'amour le plus spirituel. C'est pas seulement du côté de l'exercice. C'est du côté de la présence même de cet amour spirituel, de cet amour sensible.